Troisième conférence de la journée du 7 juillet 1986.
Je vous ai dit que le soir, nous essaierons, au plan théologique, de regarder ce qu'est le mal. Ceci est d'autant plus important. Nous verrons progressivement que le problème du mal montre la limite de la recherche philosophique. Serait-ce pour ça, je crois, que les philosophes n'aiment pas beaucoup d'en parler. Parce que le philosophe ne peut pas donner de solution. Il constate le mal existe. C'est la souffrance, l'encyclique du pape, de notre pape actuel, sur la souffrance. Petite lecture théologique sur le mal et sur la souffrance, qui est une très bonne lecture, qui est théologique au sens très très fort. Alors, évidemment, je voudrais simplement avec vous poser quelques petits éclairages qui me semblent très importants. Si je regarde la Genèse, toujours ce livre fondamental au plan théologique sur l'homme et la femme, il y a à travers toute l'Écriture une certaine religieuse. Il y a une vision de sagesse sur l'homme et la femme à travers toute l'Écriture. Et c'est important d'essayer de comprendre cela. Or, dans cette vision, dans cette anthropologie religieuse sur l'homme et la femme, tout de suite, le problème du péché apparaît très important. sur l'homme et la femme. Selon le premier récit, où Dieu crée en six jours, puisque le septième, il se repose. Il faut bien. Les six premiers jours. Selon ce premier récit, l'homme et la femme sont créés simultanément. Ce qui pose des petits problèmes au point de vue de l'exé, au point de vue évolution. Ça. C'est que pratiquement, quand vous regardez la manière dont ceux qui essaient de regarder le problème, l'apparition de l'homme et de la femme, au point de vue de l'évolution, on ne peut pas expliquer. Scientifiquement, c'est impossible. Comme quoi ils apparaissent en même temps. Ce qui montre très bien que le récit de la Genèse n'a rien à voir avec le problème de l'évolution. C'est tout à fait différent. C'est une vision de sagesse. C'est Dieu qui nous donne une vision de sagesse. L'apparition de l'homme et de la femme sont vues simultanément. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et c'est tout de suite l'homme et la femme. Selon le second récit, qui est beaucoup plus primitif, l'homme apparaît en premier lieu. Et il semblerait que Dieu ait oublié de créer la femme. On a l'impression. Et je crois que si Dieu fait cela, c'est pour que l'homme voit qu'il n'est pas parfait. L'homme a besoin d'avoir une compagne. Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Et c'est vrai que Dieu laisse l'homme un certain temps dans l'Éden. Il crée l'Éden pour lui. Il crée la femme. En dernier lieu, elle est la Benjamine, elle est la dernière. Donc, ce n'est plus du tout le point de vue de l'évolution, c'est tout à fait autre chose. C'est tout à fait autre chose, c'est tout à fait un autre aspect. C'est l'aspect de l'artiste, et c'est très intéressant. Parce qu'au fond, il y a deux analogies qui nous sont montrées. Et c'est ce qu'on oublie beaucoup trop. Quand on parle de la création de l'homme et de la femme, Dieu emploie deux analogies pour nous parler. La première analogie, c'est la grande analogie d'une vision de sagesse. Il y a un ordre. Et l'homme et la femme apparaissent au sommet de la création. Et après avoir créé l'homme et la femme, Dieu se repose. Comprend très bien. Quand on a atteint ce qu'il y avait de meilleur, de plus parfait, on se repose, Dieu se repose. Tandis que le second récit de la création, c'est l'analogie de l'artiste, du potier, et l'analogie du chirurgien. Dieu se fait potier, il forme le corps de l'homme. Il façonne. Quant au corps de la femme, il le fait à partir de l'homme. Et donc, c'est le chirurgien. C'est très curieux. Il faudrait analyser le symbolisme de ces deux gestes. Mais ce qui est sûr, c'est que le second récit montre la complémentarité entre l'homme et la femme. Non plus l'égalité, mais la complémentarité. Le premier montre la similitude, ils sont faits en même temps. Et le second récit montre la complémentarité. Et pour montrer la complémentarité, il fallait bien montrer que l'homme seul ne peut pas vivre. Il a besoin de la compagne que Dieu lui a donnée. Os de mes os, chair de ma chair. Donc, l'anthropologie révélé repose sur ces deux récits. Et selon l'anthropologie, selon ces deux récits, nous voyons que l'homme est et la femme sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et si nous sommes attentifs, nous voyons bien qu'il y a trois grandes dimensions qui commandent le point de vue de l'image et de la ressemblance. Le dominium, l'intelligence et la capacité d'aimer. L'homme est créé étant capable de transformer l'univers. C'est ça que j'appelle le dominium. Donne à l'homme un pouvoir sur l'univers. Le Créateur donne à l'homme une capacité de nommer toute chose. L'intelligence, c'est l'intelligence qui nomme. Et le Créateur donne à l'homme une capacité d'aimer. Donc, les trois dimensions par où l'homme est créé à l'image de Dieu. Dominium, intelligence, capacité d'aimer. L'homme est créé dans un état surnaturel, un état d'intégrité, ce que les théologiens ont précisé, toute la grande tradition théologique a précisé. Et l'homme est capable de choisir Dieu, d'obéir, ou au contraire de désobéir. Et on voit tout de suite ce moment très important de la chute. Autrement dit, il nous est donné, et je crois ça très important, point de vue, vision anthropologique, il nous est donné la première tentation. Et la première tentation avec la première chute. Ceci nous fait comprendre comment le mal a pénétré dans le cœur de l'homme et dans le cœur de la femme. Le venin du serpent, puisqu'il s'agit du serpent, le venin du serpent va pénétrer dans le cœur de la femme et dans le cœur de l'homme. Tout cela selon un langage symbolique, c'est bien évident. Le serpent, c'est expliqué dans l'Apocalypse. L'antique serpent, c'est le dragon, c'est l'adversaire, c'est celui qui lutte contre Dieu pour essayer de détourner la femme de sa mission. La tentation, c'est toujours une manière de tourner l'homme de sa finalité. Alors, je crois que c'est très important, on va le voir ensemble. On connaît ces textes, on n'y réfléchit pas assez. Au plan, j'allais presque dire, métaphysique, on n'y réfléchit pas assez, alors qu'il y en a un intérêt extraordinaire de voir comment le mal a pénétré dans le cœur de l'homme et dans le cœur de la femme. Le serpent, alors comprenez le langage symbolique, et c'est le serpent, le symbolisme du serpent est un symbolisme consacré pour montrer l'influence rusée du démon. Le serpent était la plus rusée de toutes les bêtes des champs que y avait Dieu. Avait faite. Il dit à la femme, alors Dieu a dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin. C'est lui qui prend l'initiative. Adam et Ève étaient tranquilles dans leur communauté, n'ayant qu'un seul précepte, le précepte de s'aimer. Selon la première épître de Saint Jean, puisque le plus antique précepte, c'est le précepte de la charité fraternelle. Et donc, il n'avait que ce commandement-là, de s'aimer. Ils adoraient spontanément Dieu, et ils le contemplaient. Mais il y avait un commandement pour s'aimer. selon une herméneutique de la parole de Dieu. Faut jamais oublier ça. Le démon donne une interprétation de la parole de Dieu. C'est la manière dont il s'infiltre et dont il attire l'attention de la femme. Il l'interroge. C'est très astucieux. Sans doute qu'Adam n'interrogeait pas assez Ève. Quand on est interrogé, n'est-ce pas ? On désire avoir une réponse de quelqu'un de compétent. Quand vous interrogez quelqu'un, ça prouve qu'il est capable de répondre, autrement vous n'interrogez pas. C'est pour ça que je vous demande d'interroger. Pour répondre, c'est toujours agréable de répondre à des gens qui disent qu'ils ne connaissent pas. Il ne faut pas oublier ça. C'est que est interrogé pour la première fois. Je ne crois pas qu'Adam l'interrogeait beaucoup. Il s'aimait beaucoup. Subitement, quelqu'un intervient et interroge. L'interrogation, c'est l'intelligence qui est mise en éveil. La femme dit au serpent, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Ève tombe dans le panneau, elle livre le secret. Alors que de fait, le serpent ne connaissait pas le secret. Et c'est pour ça que son interrogation est très grosse. Vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin. Autrement dit, il veut montrer à Ève qu'elle est dans un état de servitude et de dépendance. Il veut libérer la femme. C'est vieux, ça. C'est très, très vieux. La théologie de la libération, elle commence ici. Il veut la libérer, c'est très net. Et il est à son service. Il l'interroge. Et Ève tombe dans le panneau, tout de suite. À la fois, elle défend Dieu. Elle sent très bien qu'il y a une attaque. On la considère comme sous la soumission, la docilité absolue vis-à-vis de Dieu. Et donc que Dieu impose Adam et Ève, un sort qui n'est pas du tout agréable. Dieu les tient sous sa tutelle. Ils sont dans un régime d'obéissance absolue. Vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin. C'est effrayant. On voit des fruits et on n'a pas le droit de les manger. Supplice de Tantale. Tu considères comme ça. Ève répond, pas du tout, c'est pas vrai, ça, c'est pas vrai. Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. Et elle en a mangé. Mais, alors, elle livre le secret. Mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, tu as dit, vous n'en mangerez pas. Vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Donc, il y a deux commandements dans cette petite communauté. Le précepte de la charité fraternelle et un précepte négatif. Vous ne mangerez pas de l'arbre qui est au milieu du jardin. Le serpent dit à la femme, pas du tout. Vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Voyez, l'herméneutique de la parole de Dieu. L'herméneutique du commandement négatif. Le démon veut faire comprendre à Ève qu'il faut être intelligent et qu'il ne faut pas obéir comme des petits enfants, c'est-à-dire sans comprendre. Comprenez, soyez intelligents. le jour vous en mangerez. Donc c'est Dieu qui veut les tenir en tutelle. Vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Voilà la grande tentation. Devenir comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Adam et Ève sont créés pour devenir comme des dieux. L'image à la ressemblance de Dieu, mais dans l'obéissance et l'amour. Et le démon prétend qu'on va devenir comme des dieux par la connaissance du bien et du mal. Alors ça me semble très important, les deux voies. On devient comme des dieux par l'amour et l'obéissance. Et le démon ne veut pas cela, parce qu'il n'aime plus. Il n'obéit plus. Il a gardé simplement la connaissance. Et c'est pour ça qu'il refuse d'être semblable à Dieu par l'amour et l'obéissance. Et il veut qu'Ève le suive. Connaissance du bien et du mal. Alors la femme est complètement séduite. La femme vit que l'arbre était bon à manger, qu'il était agréable aux yeux et qu'il était cet arbre désirable pour acquérir l'intelligence. Remarquez que les trois aspects sous lesquels on présente l'arbre, pas la pomme. La pomme, c'est une petite invention. Après, et c'est l'arbre, ce fameux arbre qui reste mystérieux, qui reste symbolique, le fruit de l'arbre du jardin est au milieu. Donc, l'arbre était bon à manger. Elle ne l'a pas encore expérimenté. Mais le démon lui a mis dans la tête qu'il était bon à manger. Qu'il était agréable aux yeux, la beauté, qu'il était désirable pour acquérir l'intelligence. Oui, tout est orienté vers le point de vue de l'intelligence, l'exaltation de l'intelligence, par le point de vue de la beauté et par une promesse. Elle prit de son fruit et mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle. Tu vas pas me laisser seul quand même. Donc elle entraîne et il mangea. Alors s'ouvrirent leurs yeux à tous deux et ils connurent qu'ils étaient nus. Ça c'est très très glorieux et c'est très intéressant. Le Saint-Père a fait une exégèse très intéressante sur la nudité d'Adam et Ève. Et c'est vrai, c'est très intéressant au plan philosophique et au plan théologique. Vous voyez un tout petit peu ce qui est dit ici. Je vois que le serpent veut attirer Ève vers l'orgueil de l'intelligence, le primat de l'intelligence sur l'amour. C'est ça l'orgueil. Qu'est-ce que c'est que le péché d'orgueil? Le péché d'orgueil, selon l'Écriture, c'est la volonté d'exalter l'intelligence au-delà de l'amour. C'est de prétendre que l'intelligence commande tout et qu'il n'y a rien au-dessus de la connaissance du bien et du mal. Mais l'exaltation de l'intelligence, alors que, selon la volonté de la sagesse de Dieu, ce qui est au-dessus de tout, c'est l'amour. Et l'intelligence est au service de l'amour. Ce qu'il y a de plus noble dans l'intelligence, c'est sa perspicacité pour être au service. considérer que Dieu les prend comme des enfants, ne voulant pas qu'ils puissent progresser dans l'ordre de la connaissance, et les tenant en tutelle. Donc, il donne une interprétation de la parole de Dieu pour les détourner de l'obéissance. Voilà la première faute, faute d'orgueil. Et ça, toute la grande théologie, saint Thomas en dernier lieu, dira que la première faute, c'est l'orgueil. On comprend très bien. La première faute, selon toute la tradition chrétienne, c'est la faute de l'ange, c'est pas la faute d'Ève. La première faute est une faute angélique, et l'ange ne pouvait pécher que par orgueil, parce que il est une créature d'une noblesse, d'une intelligence telle que l'ange ne pouvait pécher que par orgueil. Alors, qu'est-ce que c'est que le péché de l'ange? C'est beaucoup moins précisé que le péché d'Ève. Mais comme le péché d'Ève est un péché d'orgueil, le péché de l'ange ne peut être qu'un péché d'orgueil. C'est sûr, les deux. Autres dans son sillage. Donc, les deux premiers péchés, celui de l'ange et celui d'elle, sont des péchés d'orgueil. Alors, l'orgueil, l'exaltation de son propre jugement. Le péché de l'ange, sans doute de Lucifer, c'est selon saint Augustin, et saint Thomas reprit, c'est lorsque Dieu a communiqué aux anges qui étaient créés dans la foi, donc dans une justice originelle, Dieu a créé sa volonté de poursuivre sa création en créant son chef-d'œuvre, en unissant l'esprit et la matière. Et c'est là où il y a eu une épreuve pour les anges, que Dieu, esprit, crée des esprits, ça va, mais que Dieu, esprit, crée un monde physique, matériel, pour réaliser son chef-d'œuvre dans l'homme et la femme. Ça ne va plus du tout. Pour l'ange, ça ne va plus du tout. Pour un intellectuel comme l'ange, un contemplatif, d'une contemplation naturelle et d'une contemplation surnaturelle, mais dans la foi, ça ne va plus du tout. Dieu puisse créer la matière. Je crois qu'on peut dire que l'occasion du péché d'orgueil de l'ange, ça a été la révélation que Dieu créerait un monde physique, matériel. C'est très curieux et c'est très intéressant du reste à regarder de près comme vision de sagesse. L'ange aurait tout à fait accepté que Dieu continue de créer d'autres anges. Mais que Dieu puisse créer la matière et puisse unir l'esprit et la matière pour faire son chef-d'œuvre, ça, c'est insupportable. Alors, pourquoi Dieu veut-il créer la matière? Ce que l'ange n'a pas compris. Dieu veut créer un monde matériel pour communiquer plus profondément son amour. source de vie. Alors que les anges ne peuvent pas être source de vie. Les anges sont de purs contemplatifs. Ils sont de purs esprits créés, purs contemplatifs. Ne peut pas être source d'autres anges. C'est impossible. C'est en créant la matière.
Peut impliquer aussi un don substantiel.
le don des corps. Et donc, par là, l'amour divin peut se communiquer plus. Et c'est cela qui est insupportable pour Lucifer. De voir que Dieu aimera plus les petits Benjamins, les petits derniers. C'est curieux, hein, dans toute l'écriture, vous voyez cette constante que le Benjamin est toujours plus aimé. C'est très très curieux. Pourquoi le fils aîné n'est pas le plus aimé? Il a le droit d'aînesse quand même. Et c'est toujours le Benjamin ou la Benjamine. C'est pour ça que c'est très important de voir que dans le second récit de la Genèse, dans le second récit de la création, la femme est la Benjamine. Elle est donc plus aimée que l'homme. C'est un fait. Comme jusque maintenant, les théologiens étaient toujours des hommes, ils ne l'ont pas dit. Mais maintenant que les femmes deviennent des théologiens, il faut vite le dire. Il y a quand même quelque chose de très curieux. Et je crois que c'est très important. La femme, normalement, est plus capable d'aimer que l'homme. C'est pour ça qu'elle est la Benjamine. Elle a un rôle bien plus important du côté de la procréation que l'homme. Elle est gardienne de la vie. Et donc, elle est plus liée à la procréation, à la fécondité. Et puis, profondément, elle est plus capable de se donner que l'homme. L'homme a toujours beaucoup de peine d'aimer. L'homme aime mieux rester dans le domaine de l'intelligence. Parce que dans le domaine de l'intelligence, il a son autonomie. Tandis que dès qu'il commence à aimer, il ne sait plus très bien où est son autonomie. Il devient relatif à un autre. C'est très curieux, cela. Je crois que c'est très très important de saisir cette rivalité terrible du démon par rapport à la femme. Il y a une rivalité. Le démon supportera plus facilement l'homme que la femme. C'est un fait. C'est dit du reste. Pourquoi? Parce que la femme, c'est la dernière. C'est la Benjamine. Selon l'ordre de la création de Dieu, c'est la dernière. Puisque Dieu a voulu créer ces Benjamins, l'homme et la femme, pour communiquer plus la capacité d'aimer, c'est dans la femme qu'il pourra réaliser davantage cette capacité d'aimer. Et c'est cela qui est insupportable pour Lucifer. Non serviam, il n'accepte pas cela. C'est de la folie pour lui. Dieu est créateur, il est père des anges, il est le grand-père de l'homme et de la femme. Et comme grand-père, il perd sa dignité de père. Il est trop bon. L'accusation de Lucifer par rapport à Dieu, c'est que Dieu est trop bon. Comme un grand-père. On ne le respectera plus. Et le démon veut montrer qu'il a raison. C'est pour ça qu'il essaie par tous les moyens de détourner l'homme et la femme de Dieu. Pour montrer qu'il a raison. Vous savez, les intellectuels orgueilleux, c'est terrible. Ils veulent toujours avoir raison. Ça, c'est impossible, autrement ça fait partie de l'orgueil, ça. Jamais un intellectuel orgueilleux vous arriverait à lui dire qu'il s'est trompé. Il arrivera toujours à donner une explication pour montrer qu'il a raison. Parce que tout intellectuel est comme ça. Tout bon intellectuel est comme ça. Parce que ce qu'il dit, c'est mesuré, c'est pesé, il sait très bien ce qu'il dit. Donc il aura toujours raison. Mais l'orgueil ne veut pas accepter la possibilité accepter d'être dans l'erreur. Il reste entêté. Et l'entêtement, j'ai dit que c'est quelque chose. L'entêtement de l'homme et de la femme, d'un breton, d'une bretonne, je ne sais pas comment, n'est-ce pas ? C'est un entêtement assez fort. Ou l'entêtement des flamands, c'est aussi. C'est quelque chose. L'entêtement angélique est pire. Parce que c'est l'entêtement de Lucifer qui, lui, est sûr d'avoir raison. Actuellement encore, le démon est sûr d'avoir raison. Et que Dieu s'est trompé. Et que tu as été trop loin dans l'ordre de la montée. Et qu'il faut maintenir la justice. Il se fait lui, puisqu'il reconnaît la grandeur du Créateur. Et s'il n'accepte pas cette bonté surabondante de Dieu, cette miséricorde infinie de Dieu, ça il n'accepte pas. Il veut montrer qu'il a raison, qu'il fallait maintenir la justice. Que la justice est bien plus grande que l'amour. Que la justice est bien plus grand que la miséricorde. Parce que la justice, c'est l'ordre. Tandis que la miséricorde, c'est le désordre. Parce que c'est les pauvres petits qui passent devant. Des pauvres petits qui n'ont pas grand-chose. Qui n'ont que leur misère. Et ils passent devant. C'est absurde. On voit toute l'intelligence, c'est vrai, du reste. Il y a quelque chose dans la miséricorde qui est absurde. Respecte pas l'or des intelligences. Mais c'est l'or des intelligences que vous respectez. C'est très important, vous voyez, pour comprendre comment le mal s'est introduit dans la famille humaine. Adam et Ève sont pour nous, en tant que croyants, les chefs de file de toute notre race humaine. Adam et Ève n'ont pas de signification pour le savant. Laissez le savant chercher le premier crâne de l'homme. Il ne le trouvera jamais. Le premier, il cherchera indéfiniment. C'est très bien qu'il le cherche. D'où, au point de vue de la foi, on a ce privilège, non pas d'avoir le crâne du premier Adam. Je vais vous le sortir, je l'ai. Non, on ne sait pas. Mais on sait qu'Adam et Ève sont les chefs de file. Il faut bien respecter la différence de la connaissance scientifique, qui dans ce domaine-là, du reste, est très fragile. Je me souviens de M. Pivetot faisant une grande conférence à Fribourg sur l'origine de l'homme et de la femme. Je ne pouvais pas y assister, mais je connaissais très bien son fils, et après la conférence, j'ai eu toute la soirée avec lui, c'était beaucoup plus intéressant. Alors il m'a résumé sa conférence, très gentiment, et puis il m'a dit, j'aurais aimé qu'à Fribourg, après ma conférence, un théologien puisse dire, voilà ce que la foi nous dit. Parce que le savant, dans ce domaine-là, il bredouille. Il sait que dans 10 ans, on dira autre chose. Il le sait. Parce que sans doute que dans 10 ans, on retrouvera quelque chose qui obligera de refaire entièrement les hypothèses. Alors j'aurais aimé qu'un théologien puisse dire voilà ce que c'est qu'Adam, voilà ce que c'est qu'Ève. Voilà la vision de Dieu sur Adam et Ève. Voilà la vision de Dieu sur le premier couple. Vous voyez, ce qui est très important, c'est que les théologiens d'aujourd'hui, quand il s'agit de la création, quand il s'agit d'Adam et Ève, sont impressionnés par les théories de l'évolution. Ils oublient. Lorsqu'il s'agit de la création, il s'agit d'une œuvre de sagesse et non pas de science. qu'ils oublient que lorsqu'il s'agit de la création, les analogies de l'art peuvent dire beaucoup plus que la science. C'est ça qui est un peu terrible. Parce que Dieu, en créant, est un artiste, pas un savant. C'est un grand artiste, Dieu. C'est le premier des artistes. Et l'art peut nous aider beaucoup plus à comprendre ce que c'est que l'œuvre de la création, que les savants. Les artistes savent très bien que, de fait, ils progressent. Mais ils progressent, non pas du tout, selon les lois de l'évolution. Les artistes ont la fantasia. Ils ont des fantaisies merveilleuses de créateurs. Ils peuvent faire des ponts sans qu'il y ait une continuité. C'est le propre, justement, de la connaissance artistique. Et la connaissance artistique peut nous dire beaucoup plus sur la création que la connaissance scientifique. Si je suis fidèle à l'écriture, je vois ça, puisqu'on dit que Dieu a façonné le corps de l'homme. On dit que Dieu a été chirurgien pour former la femme. Donc je vois, selon ce qui nous est montré dans l'écriture, que ce sont les analogies de l'art qui sont beaucoup plus importantes pour saisir la création de l'homme et de la femme. Deuxièmement, je vois que Dieu a créé l'homme et la femme libres et qu'il y avait une possibilité de se détourner de l'obéissance en subissant la séduction du démon. Ève a été séduite par une intelligence bien supérieure à la sienne. Elle a été séduite. Et elle s'est laissée entraîner. Et elle a regardé les choses dans la lumière de Lucifer. Et non plus dans la lumière de la sagesse de Dieu. Alors nous voyons tout de suite, je ne vais pas le voir maintenant, nous voyons tout de suite comment le péché, l'orgueil, replie sur elle-même, replie Adam sur lui-même. Et c'est pour ça qu'ils s'aperçoivent qu'ils sont nus. Vous voyez, la première fois où ils se regardent, avant c'était contemplatif, ils se regardaient en Dieu et dans la lumière de Dieu. Tandis que là, ils se regardent. Et c'est ça, la nudité. C'est de se regarder en premier lieu. Et se regardant en premier lieu, ils s'enferment sur eux-mêmes. Ils ont peur de Dieu. La première peur de Dieu vient de l'orgueil. Quand on est orgueilleux, on a peur de quelqu'un de plus grand. Alors c'est cette espèce de peur, c'est pas une crainte aimante. Il n'adore plus. L'orgueilleux n'adore plus. Puisqu'il se regarde. Et il ne fait que se regarder. Alors, ils ont peur de Dieu. Si on adore Dieu, on ne craint plus Dieu. On n'a plus peur de Dieu. Au contraire, on désire que Dieu soit très proche. Tandis que là, on est devant l'antithèse de l'adoration, qui est l'orgueil, ce repliement sur soi. Dieu les chasse du paradis terrestre. C'est très important de comprendre ça. Là, on est en face d'un autre mal. Vous voyez que tout de suite, paradis terrestre. C'est un mal de peine. Ils doivent subir une peine, une correction. Dieu les corrige, chassés du paradis terrestre. Le paradis terrestre représentant une harmonie parfaite entre le bien spirituel et le bien temporel. Cette harmonie est brisée. Ils sont chassés du paradis terrestre. Et non seulement ils sont chassés du paradis terrestre, mais en eux, il y aura un désordre. Et ce désordre est différent pour l'homme et la femme. C'est pour ça que c'est important de revenir sur ces textes. Il y a d'abord, et la première chose que Dieu souligne, je mettrai de l'inimitié entre toi et la femme. Entre ta descendance et sa descendance, celle-ci te visera à la tête, toi tu la viseras au talon. La peine chassée du paradis terrestre, ensuite il n'y a plus de paix, la paix est bannie. Il y a une guerre ouverte, une rivalité ouverte entre Lucifer et la femme. C'est le temps de la guerre qui continue entre les créatures du même Dieu. Et cette lutte va très loin, puisque c'est la descendance et la descendance. Celle-ci te visera à la tête. Et toi, tu viseras au talon. On voit très bien la lutte. Là, on regarde la tête, l'autre le talon. Les deux extrêmes. Ça ne peut pas être mieux. Ça veut dire que toute la femme et toute l'humanité est prise en la lutte, depuis la tête jusqu'au talon. Et l'inimitié remplit les deux. Alors, la conséquence de la faute, la peine pour la femme, je multiplierai ta peine et tes grossesses. C'est dans la peine que tu enfanteras des fils. Vers ton mari se portera ton désir. Et lui dominera sur toi. Pas la peine d'expliquer. On comprend ça tout de suite. On voit très très bien. C'est classique. C'est classique ça. Et c'est une peine. Donc c'est pas du tout classique. C'est une peine. Et ça recommence tout le temps. Et les gens n'y comprennent rien. À la place d'y avoir un amour parfait entre l'homme et la femme, eh bien, il y a un désir excessif du côté de la femme. Il y a une domination excessive du côté de l'homme. À la place d'exercer l'autorité, il exerce un pouvoir. Et la femme, à la place d'aimer, elle se laisse attirer par la passion. Et la peine de l'homme, parce que tu as écouté la voix de ta femme, il a confondu la voix de la femme et la voix de l'Esprit Saint. Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Maudit soit le sol à cause de toi. La lutte, elle est par le haut. La lutte, elle est par le bas. Elle est jusque dans la terre. Maudit soit le sol à cause de toi. Dans la peine, tu t'en nourriras tous les jours de ta vie. Le travail deviendra difficile. Une lutte. Il y aura une lutte dans le travail. Il y a une lutte dans la génération, dans l'enfantement, dans la vie. Et il y a une lutte dans le travail. C'est vraiment la lutte qui pénètre tout. Ce sont des épines et des chardons qu'il fera germer pour toi. Tu mangeras l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ton retour au sol, car de lui tu as été pris, car poussière tu es, et à la l'augmentation de l'intelligence et la peine, la brisure de l'harmonie primitive, et une peine qui va se traduire